Vous écoutez RTL.
On accueille avec plaisir Thomas et Sidonie pour la curiosité. C'est parti.
Mais oui, Stéphane, c'est quoi votre chanson préférée de Michel Sardou ?
La Broadway, la Java de Broadway.
Ah, la Java de Broadway, c'est pas mal. Moi, j'aime bien celle-ci.
Il a même la chorégraphie, Thomas.
Je peux tout vous faire.
Sur RTL.fr.
Allez, on partage le destin d'un monument de la chanson française sur RTL dans la curiosité. Vous le savez, il vient de faire ses adieux à la scène. Michel Sardou, on va réécouter ses plus grands tubes et découvrir leur histoire. Revenir aussi sur les polémiques qui ont pratiquement à chaque fois accompagner la sortie de ses albums.
Et tout de suite, dans la curiosité, on découvre les secrets de la Porn Valley.
La curiosité est un vilain défaut.
Il faut savoir qu'aux États-Unis aujourd'hui, on peut faire ces pratiques extrêmes sexuelles sur le corps d'une fille de 18 ans quand cette même jeune fille ne peut pas aller s'acheter une bière dans un bar.
RTL.
Les gens ne peuvent pas rester des années dans ce métier. Ils continuent malgré tout à s'attacher à ce rêve que certains ont de se faire un nom.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Porno qui sert de couverture à leurs activités, probablement criminelles.
Les curieux sont sur RTL.
Salut les curieux, c'est votre heure de découverte qui commence. Vous le savez, nous sommes ensemble tous les jours sur RTL jusqu'à 15h avec Thomas.
Salut Sidonie, ça va bien ? En pleine forme, on se passionne pour tout dans cette émission, vous le savez. Science, nature, histoire, aventure, espace. Pas de limite, pas de tabou non plus. On part donc découvrir l'univers de l'industrie pornographique aux États-Unis.
Bienvenue dans la Porn Valley pour nous guider, la journaliste Laurine Ortiz. Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue chez nous. Comment vous êtes retrouvée dans cette vallée du sexe ?
Alors, c'est assez simple parce qu'en fait, il y a une autoroute qui part de l'aéroport de Los Angeles, qui file vers le nord, qui s'appelle la 405. Et en une demi-heure, on atterrit dans la San Fernando Valley, qui a acquis ce petit surnom de Porn Valley depuis 30 ans, en fait, parce que l'industrie pornographique s'est installée là-bas.
À quoi ressemblent les lieux à quoi ressemble la Porn Valley ?
Alors,
c'est des grands bâtiments, des petites maisons, ouais.
C'est une banlieue, ça pourrait être le Val-de-Marne si on était à Paris. C'est une banlieue qui est en dehors de Los Angeles, mais qui fait partie de manière administrative de la ville, qui est au nord, donc entre deux chaînes de montagnes, et qui constitue comme ça une espèce de plaine avec une rivière qui coule au milieu où il n'y a pas beaucoup d'eau.
C'est bucolique ou c'est un peu glauque?
Non, c'est assez sympathique. Il y a rien à faire, mais il y a des balades, il y a des sentiers de montagne, il y a quand même il y a des gens normaux. C'est vraiment la banlieue normale avec des centres commerciaux, des fast-food, des stations essence et beaucoup de garagistes, de mécanos latinos.
Laurine Ortiz, vous êtes journaliste, vous avez enquêté sur cette Porn Valley aux États-Unis. C'est un pays qui est fascinant aussi par ses paradoxes, pays puritain, et pourtant on y trouve ce lieu, cette industrie du porno. Comment ça s'explique pourquoi cette vallée du X s'est installée en Californie?
Alors, il y a plusieurs raisons. À la base, elle s'était plutôt développée à New York et à San Francisco. Et puis, dans les années 80, donc la Cour suprême californienne a officiellement légalisé le genre. Un arrêt a été pris en 1988. Et donc, elle s'est officialisée. Et donc, la deuxième raison, c'est que la proximité avec les studios de cinéma hollywoodiens est bien pratique, puisque ça permet d'avoir des techniciens professionnels, d'avoir des loueurs de caméras.
Donc c'est légal, ça c'est la raison principale, mais c'est quoi l'ambiance dans les allées, dans les rues de cette cité du X ?
C'est vraiment typiquement américain, c'est-à-dire des grandes avenues où on ne marche pas, où on circule en voiture, personne ne marche. On va au supermarché faire ses courses après avoir tourné un film pornographique.
Ça veut dire que les acteurs X et les actrices vivent dans cette San Fernando Valley, vivent à côté de leur lieu de travail ?
Oui, parce que c'est un peu le parent pauvre d'Hollywood, donc on a quand même moins de moyens dans cette industrie-là. On vient en général de milieux défavorisés et il est moins cher de vivre dans cette vallée que de l'autre côté plus prestigieux de Los Angeles.
Et il y a combien de personnes qui travaillent dans cette industrie du X, dans la San Fernando Valley ?
C'est très difficile à dire parce que c'est quand même une industrie qui opère derrière des volets fermés. La dernière estimation, c'était à peu près 50 000 personnes.
Ça semble beaucoup, non ?
Ça semble beaucoup. Aujourd'hui, ils sont un petit peu éclatés dans le pays, en plus. Ils ont fui vers le Nevada voisin, vers la Floride.
À 50 000 sur tous les États-Unis, c'est ce que vous nous dites, qui travaillent dans cette industrie.
C'est une estimation. C'est difficile. Moi, franchement, j'en mettrais pas ma main coupée. Ouais. C'est très difficile à dire.
Pour filmer, enfin, pour produire combien de films par jour et pour nourrir la planète entière?
Alors,
aussi
il faut savoir il faut savoir qu'avec Internet, on tourne plus des films, on tourne des vidéos qui durent entre 10 minutes, 20 minutes, voire une demi-heure grand maximum. maximum. Et donc du coup, pour tourner une vidéo, ça peut être fait en général en un jour. Donc s'il y a 100 producteurs dans l'industrie qui tournent une vidéo par jour, voilà, ça donne un ordre de grandeur.
Porn Valley, une saison dans l'industrie la plus décriée de Californie, c'est le titre du livre, Laurine Ortiz, que vous publiez aux éditions Premier Parallèle. Dans un instant, on va découvrir comment fonctionne cette industrie porno américaine. Vous allez comprendre comment Internet a tout bouleversé. A tout de suite sur RTL.
Sur Internet, les sites pornographiques sont même parmi les plus fréquentés au monde.
La curiosité est un vilain défaut.
Pourtant, les acteurs et actrices X restent méconnus, comme s'ils étaient la honte de notre société.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y a des scènes qui peuvent durer 5 heures, et là, c'est difficile.
Il y a déjà 5 ans, j'avais fait plus de 1200 scènes, donc maintenant, je dois en être à 2000, plus de 2000.
Ça bouleverse tellement la vie sexuelle, la vie affective, ça bouleverse tout le X.
Curiosité, indiscrétion, les curieux sont sur RTL.
Et dans la curiosité plongée dans la Porn Valley, la capitale mondiale du porno aux États-Unis, c'est donc en Californie, et c'est la journaliste Lorraine Ortiz qui nous dévoile les coulisses, la face vraiment glauque de ce business. On entendait le témoignage d'une actrice. Vous avez assisté à des tournages, Lorraine Ortiz ?
Oui, plusieurs, différents styles, des tournages de gros budget sur un toit de Los Angeles avec une arrivée en hélicoptère, les gros moyens, et puis des tout petits tournages, petit budget, dans des studio un peu planqué où on divulgue pas l'adresse parce qu'on veut pas être inspecté.
C'est des tournages qui se déroulent comment ? Est-ce que moi je me dis de l'extérieur ça doit être super glauque et terrifiant à tourner ?
Non, les tournages sont pas glauques, c'est hyper pro en général. Moi il faut savoir que les gens qui m'ont accueilli, c'est des gens qui avaient envie de parler. Enfin, on m'a évidemment accueilli sur des choses que je pouvais voir, donc j'ai sans doute pas assisté au pire parce que j'ai eu des témoignages quand même de choses très 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 difficiles et très glauques. Mais le récit n'est pas glauque en fait. Je me retrouve à être avec des gens qui pourraient être vos voisins.
Et qui font du sexe professionnel ?
Ils arrivent à 10h, ils repartent à 6h, ils s'occupent de leurs enfants quand ils en ont.
C'est leur métier. Vous parlez de tournages auxquels vous n'avez pas pu assister. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont parfois de plus en plus violents, souvent de plus en plus violents, ces petits films courts qui sont proposés gratuitement sur Internet ?
Alors, il y a une surenchère, effectivement, de la violence. Et ça, moi, je ne sais pas exactement l'expliquer. Est-ce que c'est ce que souhaitent les consommateurs, comme je l'entends régulièrement ? Si c'est ça, c'est assez inquiétant, c'est assez grave. Ça veut dire que c'est ce que veulent voir les gens. En tout cas, moi, je sais qu'il y a des tournages où on fait vomir les films. Et où on leur fait subir des sévices qu'elles subissent vraiment. On n'est pas dans des effets spéciaux, c'est pas Hollywood.
Ça veut dire qu'elles sortent, pardon, elles sortent de ces tournages blessées, c'est-à-dire qu'avec des bleus, des coups.
Ah oui, j'ai rencontré un agent qui m'a montré des photos de l'une de ses actrices à un retour de tournage. Elle avait le dos lacéré, rempli de bleus, d'hématomes. Parce que il y a toute une niche du porno qui est la mise en scène d'une sorte de torture, enfin de pratique qu'on appelle donc sadomaso, et c'est un secteur qui marche bien.
Ils viennent d'où tous ces scénarios de films pornographiques ? Parce qu'il faut nourrir en idées et en scène toutes ces centaines de milliers de films tournés dans la San Fernando Valley.
Alors aujourd'hui, il y a très peu de scénarios. Hein. Justement, on a réduit, puisqu'on fait plus des films, on fait des vidéos qui vont direct à l'action. Donc le peu de scénarios qui reste vient de cette entreprise qui aujourd'hui domine totalement le secteur, qui est basée à Montréal, qui s'appelle MindGeek, qui est essentiellement constituée, faite d'informaticiens. Donc c'est vraiment des geeks qui ont pris le pouvoir, comme dans tout un tas d'autres industries d'ailleurs. Et donc eux, ils envoient des scripts écrits à Montréal qui sont envoyés à leurs différents producteurs dans la vallée.
Est-ce que les comédiens se protègent ? Est-ce qu'ils portent des préservatifs dans ces films ?
Alors ça, c'est la question qui fait que je me suis à la base intéressée à ce sujet. C'est les risques que prennent les gens. Et ce risque, effectivement, c'est d'être contaminé par le virus du sida ou d'autres maladies. Et en 2009, quand je me suis intéressée à ce sujet, la question c'était justement de rendre le préservatif obligatoire. Une mesure est passée quelques années après, en 2012. Aujourd'hui, elle n'est absolument pas respectée, donc on n'utilise pas le préservatif. Et c'est intéressant que je sois là aujourd'hui, parce que justement cette semaine, l'industrie est en stand-by, il y a un moratoire qui a été imposé puisqu'il y a un cas de VIH, un nouveau cas qui a été découvert cette semaine. Et donc, l'industrie est en pause.
Il n'y a plus de tournage en ce moment dans la...
Pendant 4 jours, là, ils sont en train de tester tout le monde pour voir l'étendue des dégâts et voir qui est contaminé.
Alors, Laurine Ortiz, vous avez cité un nom. C'est le nom de cette entreprise qui a la mainmise sur l'industrie porno. Ça s'appelle MindGeek. On va vous décrire comment elle fonctionne. C'est une espèce de Google du X. C'est vraiment une entreprise ultra puissante.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Vous en avez assez des donneurs de leçons, vous ne supportez plus les polémiques creuses. Mais avez-vous déjà écouté On refait le monde, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre sur RTL? Des points de vue tranchés et argumentés, des échanges vifs et toujours surprenants, des grandes signatures venues de tous les horizons, mais aussi de la bonne humeur et des surprises, c'est tous les soirs de 19h à 20h sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité dans les coulisses d'un univers impitoyable et parfois pitoyable. San Fernando, la capitale mondiale du porno aux États-Unis. Nous sommes en Californie avec vous, Laurine Ortiz. Vous êtes journaliste et vous avez enquêté. Vous évoquez cette entreprise tentaculaire qui s'appelle MindGeek, qui a la mainmise en fait sur cette Pan Valley. Qu'est-ce qu'elle possède? Pourquoi elle est si puissante?
En fait, elle est arrivée à un moment où il y avait la crise économique de 2008 aux États-Unis. Et donc, les entreprises étaient affaiblies, la consommation était plus faible, etc. Et ils sont venus racheter toutes les entreprises du porno dans la vallée. Et comme eux, ce sont des informaticiens, ils ont été formés dans des universités, notamment à Montréal. Donc eux, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, des geeks. Et dans la Porn Valley, c'est pas les mêmes compétences. Les gens sont pas spécialistes d'informatique, donc ils se sont laissés racheter par ces spécialistes qui...
Mais qui s'est laissé racheter? Des studios, des sites connus?
Donc à la base, ils ont développé des sites gratuits, avec du contenu gratuit, qui a fait qu'ils ont grossi, puisque leur trafic est devenu énorme. Et devenant aussi gros, ils ont pu se permettre, ils ont réussi à collecter des fonds à Wall Street, et ils ont pu ensuite venir racheter des studios pour produire leur propre contenu.
C'est quoi les noms des sites? Moi, j'ai entendu parler de YouPorn.
Alors, c'est les plus connus.
Oui, du côté des plateformes gratuites, c'est effectivement YouPorn, Pornhub, RedTube, XTube, etc., etc. Il y en a vraiment.
Tous ceux-là appartiennent à la même entreprise.
Ils appartiennent tous à MindGeek. Il en reste deux qui appartiennent pas à MindGeek. C'est des Français qui sont basés en République tchèque, aux Philippines. Enfin, c'est très mystérieux, hein, ce secteur.
Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres Porn Valley ailleurs dans le monde, puisque vous parlez d'autres sites
Oui, alors je raconte dans le livre qu'ils se sont délocalisés comme d'autres industries. Donc, il y a une plateforme, on va dire, à Budapest, en Hongrie. Ça, c'est l'antenne européenne où est basé, par exemple, l'acteur Rocco Siffredi, qui est assez connu du grand public. Et puis, ce qui se développe en ce moment, c'est la Colombie, qui est un autre lieu de délocalisation.
Porn Valley, une saison dans l'industrie la plus décriée de Californie, c'est le titre de l'enquête que vous publiez aux éditions Premier Parallèle. Vous avez rencontré beaucoup d'actrices et beaucoup d'acteurs pour cette enquête. Ces acteurs et ces actrices, il y a de tout, j'imagine, un peu comme à Hollywood, le versant un peu plus glamour du cinéma. Il y a des gens qui cherchent du travail et qui sont plutôt en état de faiblesse, et puis des grandes stars en face.
Oui, il y a quelques stars en général qui font partie de la même agence, c'est-à-dire qu'il y a un agent qui se charge vraiment d'essayer de faire de ces recrues des grandes stars. Donc je parle dans le livre d'une fille qui s'appelle Angela White, qui vient de recevoir l'Oscar du porno en janvier.
Enfin, il y a une cérémonie de récompense.
Voilà, c'est une cérémonie qui copie le modèle hollywoodien et qui se passe à Las Vegas, et où on donne des trophées de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur, du meilleur...
Mais il y a encore la place pour des stars, malgré ce que vous nous décrivez, c'est-à-dire que cette industrie qui devient de plus en plus cheap, avec des films de plus en plus courts, sans scénario, etc. Il y a encore de la place quand même pour une incarnation, si j'ose dire, et des stars?
Il y en a quelques-unes. Donc moi, je parle d'Angela White, je parle de Kieran Lee, qui est pour le coup un homme. Mais ce qu'on m'explique, l'agent d'Angela White, justement, m'expliquait qu'aujourd'hui, on ne peut plus devenir vraiment une star, et qu'en tout cas, on ne dure pas. On dure maximum 6 mois, 1 an.
C'est bien payé, actrice ou acteur de films porno dans la Porn Valley?
Mais là encore, c'est comme à Hollywood, ça dépend de la notoriété. Donc Angela White, elle est bien payée.
C'est quoi bien payée? Elle est payée au film, à l'acte sexuel
Plus on va dans le hardcore, comme on dit, plus on est payé. Donc une scène de base, homme-femme, rapport, on va dire normal, c'est 1 000, 1 200 dollars. Et puis ensuite, on peut monter à 2 000 dollars si on est dans des
hardcore, pratiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire plus c'est violent, mieux on est payé, c'est ça?
C'est ça.
Ça veut dire que globalement, les acteurs et actrices sont riches, en fait, dans cette vallée? On fait beaucoup d'argent? Longtemps? Est-ce que la carrière dure longtemps?
On peut se faire une fortune éphémère. Après, ce qui est difficile, c'est de durer. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible. On verra cette Angela, combien de temps elle dure. Elle est très ambitieuse, donc je lui souhaite le meilleur. Mais c'est pas facile de durer et de rester riche.
Combien pèse l'industrie du porno dans le monde? Quel bénéfice réalise la Porn Valley, elle, toute seule, chaque année? Réponse dans un instant. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, le destin de Michel Sardou à l'occasion de son dernier concert. Hier, il a dit bye bye à la scène, mais nous, on lui dit pas bye bye. Restez avec nous sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
On dévoile les secrets de la Porn Valley, siège californien de l'industrie pornographique, avec la journaliste Laurine Ortiz qui a enquêté une année entière dans ce milieu. Combien paie cette industrie? Ça rapporte gros, cette industrie mondiale? Parce que évidemment, ces films se vendent partout dans le monde.
C'est vraiment très difficile à dire parce que c'est une industrie d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, qui ne sont pas publiques et donc qui ne publient pas leurs résultats comme d'autres entreprises tous les trimestres. Donc on ne sait pas leur chiffre d'affaires, on ne sait pas combien ça rapporte exactement. Donc il y a juste des estimations qui disent que ça peut être 10-12 milliards de dollars par an.
Ça rapporte quand même tout ça alors que vous l'expliquiez, que ce ne sont plus vraiment des films mais surtout des vidéos diffusés gratuitement sur Internet. Alors comment ils font leur blé?
Il y a quand même encore des sites payants qui fonctionnent comme Netflix. Donc c'est Netflix, le GAFA du porno, c'est donc MindGeek. Ça peut coûter 20-30 dollars par mois, on est abonné et puis on regarde ce qu'on veut. Et il y a effectivement tout ce modèle gratuit qui est très louche en fait, parce que comment on gagne de l'argent en diffusant des vidéos gratuites? C'est des entreprises qui ne font pas tout leur fric, excusez-moi, sur le porno. Donc il y a d'autres activités qui sont plus mafieuses, qui sont camouflées par cette activité légale mais pas régulée.
Avec des films, on imagine, encore plus violents ou encore plus glauques. Dernière question, Laurine Ortiz. Depuis tout à l'heure, je vous écoute décrire cette industrie. Je me dis, mais qui la contrôle? Est-ce qu'elle est contrôlée?
En fait, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on l'a légalisé, donc dans la foulée de la révolution sexuelle en Californie, c'est un état hyper avant-gardiste, donc voilà, c'est légal. Mais comme on n'assume pas d'avoir légalisé, que les élus, faut se mettre à leur place, ils sont pas du tout à l'aise avec cette industrie, donc personne ne met son nez dans cette industrie. Donc elle est légale et totalement dérégulée.
Merci infiniment, Laurine Ortiz, pour lire votre enquête complète. Il faut acheter. Porn Valley, c'est aux éditions Premier Parallèle. À bientôt, peut-être pour une nouvelle enquête.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.